Pour vivre heureux, vivons Cotier. Une émission produite et réalisée par Christophe Médici.
Chers amis, bonjour. Quelle joie, quelle chance de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pour vivre heureux, vivons Cotier. Alors, en ces temps un peu perturbés, où la France se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de remous dans la société, j'ai eu envie de vous offrir la vision d'un roman que j'ai adoré, et dans l'émission, toute l'équipe a adoré ce roman. Nous allons parler de passion, nous allons parler d'amour, nous allons parler d'une trajectoire de vie, et ça vous fait réfléchir à votre histoire de vie, à vous toutes et tous. Alors, ce jour, l'émission est consacrée à ce roman qui s'appelle « Un si brûlant secret » aux éditions La Route de la Soie. Et l'auteur est là, Bernard Méol, bonjour.
Bonjour.
Et pour m'accompagner, notre chroniqueuse et hypnothérapeute qui, elle aussi, a réfléchi sur le livre, Irène Cazenave, bonjour.
Bonjour.
Alors, exceptionnellement, ce n'est pas une émission interactive, elle est seulement interactive parce que vous allez écouter et ça va vous permettre de vous poser des questions à l'intérieur de vous. On commence immédiatement, Bernard. Si vous deviez vous présenter, on peut dire aussi que vous avez eu une autre vie avant que d'être romancier, n'est-ce pas ? Vous pourriez dire aux auditeurs de Vivons Cotier Dynamique Radio ce que vous avez fait avant comme métier ? Vous étiez
Oui, alors moi, je dirigeais un petit groupe de presse qui était en Normandie, entre la Normandie et les Yvelines, qui regroupait un certain nombre d'hebdomadaires. J'avais eu la chance au départ d'hériter d'un tout petit journal qui était en train de mourir doucement parce que les techniques d'impression étaient très mauvaises. Et puis je suis allé aux États-Unis où j'ai découvert des technologies d'avant-garde, photocomposition, rotative offset, et j'ai été le premier en France à introduire ce type de fabrication dans la presse d'information. Et donc, à partir de là, mon groupe s'est développé. Bon, quelqu'un que vous n'avez pas connu, mais qui s'appelle Robert Hersan, a tenté de mettre la main sur mon journal et les journaux que j'avais créés.
C'était un magna aussi, lui, Robert Hersan.
C'était le papivore, oui. Ouais. Et dans un combat sans merci avec lui, j'ai réussi à créer des journaux, de nouveaux journaux, à reprendre d'autres journaux et à créer un groupe qui, en 30 ans, est devenu le groupe normand de référence. Avec
vous aviez quoi comme journaux là-bas en Normandie ?
Alors, j'avais l'Éveil normand, la Partielle des Andelys, le Réveil de Neuchâtel, le Courrier des Yvelines, un peu au-delà de Normandie, le Courrier de Mantes, et puis l'Orne à Alençon.
Enfin. Voilà. Et alors, depuis quand êtes-vous romancier ? Je crois que vous nous aviez commis un premier roman qui s'appelait Les Îles du Désir, n'est-ce pas, Bernard Méol ?
Oui, c'est vrai. Et, depuis quand, toute ma vie, j'ai écrit parce que j'adorais écrire dans les journaux toutes les semaines une chronique, un édito, etc. Et moi, je suis un combattant de l'écrit. J'adore l'écrit. Oui, je suis un défenseur de l'écrit. Et donc, à partir du moment où j'ai cédé mon groupe de presse à West France, j'avais gardé mon stylo et l'envie d'écrire. Alors, j'ai écrit un premier roman, Les Îles du Désir. Et puis je continue, j'en ai d'ailleurs avec Un si brûlant secret, qui est le second livre que je viens de publier aux éditions La Route de la Soie. Et puis je suis en train d'écrire mon troisième roman, qui sera un policier, dont le premier chapitre est terminé déjà.
Alors venons-en à celui-ci. Celui-ci, chers amis auditeurs, va vous plonger dans une histoire de vie, une trajectoire de vie, n'est-ce pas, Irène Cazenave, d'une femme assez incroyable qui s'appelle, on va l'appeler France Maria, Maria France. Qu'est-ce que vous pensez et qu'avez-vous envie de poser comme question en tant que femme d'ailleurs à Bernard Méol au sujet de cette femme,
alors,
Irène Cazenave?
Quelle femme déjà, quelle femme. Et puis, c'est plus en tant que thérapeute que je vais parler, c'est quelle résilience tout au long de son parcours. Là, je vous entendais dire que vous étiez un combattant. Et ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que c'est dans quelle mesure c'est vous, cette femme ?
Bernard Méol.
Alors, vous savez, je dirais que tout hétérosexuel a envie de se mettre dans la peau d'une femme, évidemment. Mais c'est moi, pourquoi ça m'a intéressé de prendre ce personnage féminin et d'essayer de m'installer dans son être intérieur ? Parce que j'avais été impressionné par le roman de Romain Gary, Lady L.
Lady L, oui.
Lady L, c'est une petite fille qui naît dans de mauvaises herbes, prostituée, etc., qui a une beauté extraordinaire, et puis qui va finir, après avoir épousé un anarchiste, dans la peau d'un aristocrate et devenir très riche, etc. Et puis il y a une autre aventure de vie là, contemporaine, celle-là, qui m'a un peu impressionné aussi, c'est finalement Brigitte Lahaie. Brigitte Lahaie.
Ce qui est ma meilleure amie. Hein.
Ah bon, je ne savais pas.
Et avec qui je travaille depuis 2009, avant sur RMC, maintenant c'est très. Je viens d'avoir un coup au cœur que vous citiez Brigitte.
Et quelle femme
Et
aussi,
c'est une très grande dame.
Elle a ouvert un chemin de liberté extraordinaire pour les femmes. Elle a un talent fou, elle est connue, elle est reconnue. Et sur là, je me suis dit qu'une femme qui oserait finalement se montrer comme une femme très libre, ce serait une ode au plaisir, à la liberté, mais également à la capacité de la femme de s'installer dans un rôle qui n'est pas seulement le sien, qu'on lui a attribué depuis des siècles, mais qui est également le rôle d'un être humain.
Mais c'est très touchant que pour moi que vous parliez de Brigitte, parce que je la connais très bien, Brigitte. Vraiment, vraiment très très bien. Et donc vous avez été inspiré, entre autres, pour créer France Maria, de ces femmes-là, de ces femmes, notamment Brigitte Lahaie, de sa trajectoire.
Oui, absolument, par deux personnages. Lady L de Romain Gary, qui m'avait donné l'idée que finalement un parcours de femme atypique était un sujet intéressant à traiter. Et puis Brigitte Lahaie, qui a effectivement, elle, un parcours de vie aussi très atypique.
Très atypique.
Mais qui exprime un vrai talent dans sa défense de la liberté de la femme.
Oui, et puis surtout de cette trajectoire qu'elle a eue, de passage de différents trucs. Donc c'est très intéressant, Irène, hein, qu'on voit bien. Alors venons-en, oui, vous voulez dire.
Oui, c'est vraiment des parcours de résilience où on traverse, où ces femmes traversent des choses qui sont... osent explorer aussi des domaines qui sont pas tellement autorisés aux femmes. La liberté sexuelle, elle est encore peu autorisée aux femmes, quoi qu'on dise, qui osent traverser ça et qui grandissent avec ces parcours-là.
Bernard Méon.
Oui, alors, oui, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que la liberté d'être et d'aimer est une sorte d'évangile à montrer que la femme est aussi un homme. Et le problème de départ de cette petite France Maria, c'est qu'elle est née en Espagne très pauvre dans un petit village et qu'elle a été violentée à la fois par son père et par un ami de son père, si vous voulez. Bon, cet enfant dont la beauté était extraordinaire s'est échappé de chez elle à 15 ans et a commencé là à vivre librement et en somme à vouloir se venger aussi des souffrances qu'on lui avait infligées dans son enfance. Et c'est tout ça qui s'exprime dans le livre à travers ses rencontres avec les hommes. Et en fait, la rencontre, vous savez, la rencontre, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un frôlement d'âme qui s'oublie ou qui se souvienne. Alors, à travers ces... On n'est jamais le même après une rencontre. Moi, après cette rencontre dans votre radio, je ne serais plus tout à fait le même. Il y a des contacts, des propos, des idées qui sédimentent et qui vous modifient, qui vous construisent petit à petit. Alors, je ne vais pas changer du jour au lendemain, mais je pense que les rencontres sont un apport fantastique à la culture personnelle. Et l'idée de faire rencontrer beaucoup d'hommes par cette petite Maria qui devient France Maria par le jeu de son arrivée à Paris où elle ne veut pas révéler qu'elle est espagnole et où elle ment en disant qu'elle s'appelle France. Et puis son second mari qui lui dit « Mais tu t'appelles France ?» Non, elle dit « Je m'appelle Maria, mon vrai nom. » Et lui dit « Bah lui, pour réconcilier tes deux vies, appelle-toi France Maria. »
Et ce qui est très beau dans ce que vous dites, Bernard, c'est que ça me fait écho à ce qu'a dit Brad Pitt au César en rendant hommage à son grand ami réalisateur David Fincher. Il référait évidemment à cette phrase de Confucius qu'on disait « Parfois, ce qui est le plus important, c'est pas forcément d'arriver au sommet, mais c'est le chemin, n'est-ce pas ?» Très belle phrase. Et moi, là, j'ai été interloqué parce que ce qu'a dit Brad Pitt, il a dit « Non. » Un vieux monsieur l'autre jour m'a dit « C'est ni le chemin ni le sommet. Ce qui est important dans une existence, c'est la compagnie. » Et c'est très touchant. Et la compagnie, c'est avec qui on va le faire le chemin. Quelle rencontre on va avoir au fil de l'eau. Et ça nous plonge immédiatement dans le roman puisqu'on va avoir énormément de rencontres de France Maria, n'est-ce pas, au fil des chapitres, des rencontres. Après, je dirais qu'il faut distinguer. Finalement, il y a quand même plusieurs familles de rencontres. Il y a ce que j'appelle moi dans ma méthode des rencontres inopportunes et toxiques. Celles-là, elles sont terribles. Volins, nolins, on en fait aussi, Bernard. Ce sont certainement des rencontres leçons. Au bout du compte, il y a un cadeau là-dedans a posteriori. Hein. Et puis, il y a les rencontres providentielles. Vous diriez que France Maria, quelles sont ses premières rencontres providentielles dans les premiers chapitres, celles qui l'aident vraiment dans sa vie ?
Ben, vous avez tout à fait raison. Les rencontres sont parfois des îles au trésor. Pas toujours.
Pas toujours.
Mais ça arrive, on tombe sur de beaux rivages. Alors, les rencontres dans lesquelles France Maria va commencer à s'épanouir, c'est celles du premier garçon qui l'a aimé, qui l'emmène à Palma, dans le village mythique de Deia, à Palma de Mallorca. Et c'est un garçon qui lui apprend la tendresse, l'amour, et petit à petit, avec lui, elle découvre la sensualité, la douceur aussi. Et c'est ça qui va la marquer. Malheureusement, un jour où elle s'absente, elle le retrouve avec un de leurs amis, Chucho, dans leur lit. Et donc, elle comprend qu'elle a été trahie par Lorenzo. Et à ce moment-là, elle s'évade pour aller à Paris parce que, pour elle, la France est un pays de liberté. Alors que l'Espagne ne l'est pas tellement, parce qu'il y a à la fois le franquisme, il y a à la fois le catholicisme aussi qui est très prégnant et qui emprisonne un peu, qui met dans des cages les gens, les oiseaux qui ont envie de s'envoler, si vous voulez. Et donc à Paris, elle va trouver là...
Eh bien, on va en parler dans quelques minutes, parce que vous allez rester avec nous, voir certains chapitres passionnants. On va voir ce qui va se passer. On fait un peu série Netflix là, avec France Maria, dans un brûlant secret. On passe une page musicale, c'est passionnant. Restez avec nous.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains, on n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fente. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais un petit enfant. Celle-ci parla vite, vite de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule. Un mot m'était promission et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. À chaque fois, tout recommence, toute musique me saisit, et la plus banale romance mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie.
L'amour s'achève avec la pluie, magnifique texte d'Aragon chanté par Léo Ferré, qui est vraiment dans la sensibilité, n'est-ce pas, Irène Cazenave, de ce magnifique roman, Un si brûlant secret, que nous commet Bernard Méhaul dans la maison d'édition La Route de la Soie. Bernard, la chanson est présente dans le livre. D'ailleurs, dès les premières pages, page 24, vous faites un éloge magnifique À Imagine de John Lennon. Et je trouve ce passage magnifique parce que vous repassez, hein, je cite en français, Imagine est une prière universelle qui devrait figurer dans tous les livres de catéchisme, dites à la place des niaiseries sur la chasteté que les catholiques enseignent. Et là, vous citez que France Maria aime Imagine qu'il n'y ait aucun pays. Enfin, c'est ce Imagine de John Lennon. Pourquoi alors? Pourquoi cite-t-elle ça?
Pourquoi elle cite ça? Parce qu'il y a un personnage important qui est dans le roman, avec lequel j'ai cousu le fil rouge du roman, c'est Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, bon, vous avez entendu parler de Lanza del Vasto, c'était un Italien, un aristocrate, alors qu'il avait tous les talents, qui était architecte, poète, sculpteur, écrivain, etc. Et puis, c'était un très très bel homme qui collectionnait les femmes. Et un jour, il a aimé très fort une femme et il voulait l'épouser. Elle est partie aux États-Unis, il lui a écrit et elle ne lui a jamais répondu. Donc là, il a été traumatisé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Inde voir Gandhi. Il est devenu ami de Gandhi et il lui a dit « Tu sais, moi, je voudrais aller aux sources du Gange. » Gandhi lui a dit « Si tu fais ça, tu vas mourir parce qu'il y a des effets moins 20, il y a des montagnes avec des pierres qui tombent sur la tête, tu ne reviendras pas vivant. » Il est allé quand même, il est revenu très maigre. Et il a échangé beaucoup avec, très fatigué, il a échangé beaucoup avec Gandhi, parce qu'il y a beaucoup de liens de parenté entre l'hindouisme et le catholicisme, si vous voulez. Et donc ce sont des religions de paix. Et en rentrant en France, Lanza del Vasto a créé les communautés de l'Arche, et c'est là qu'il a milité contre la guerre d'Algérie. Il a été soutenu d'ailleurs par des gens célèbres, que ce soit Camus, Jean Cocteau, Brassens et bien d'autres. Et puis, il a donc créé des villages dans lesquels on vivait avec beaucoup de frugalité, beaucoup de sobriété.
Donc c'était un éloge de la simplicité.
C'était un éloge de la simplicité et c'était un visionnaire parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit dans les années 50...
C'est la décroissance 50, un peu, c'est l'idée de la décroissance.
Tout à fait, c'est l'idée surtout qu'il ne faut pas gaspiller.
Oui, si c'est ça, non gaspiller.
Et que les êtres humains doivent s'aimer les uns les autres, ouais. Et essayer de vivre en harmonie plutôt que de se battre et de faire la guerre. Et donc, moi, ça m'avait impressionné. J'avais lu ce bouquin à 17 ans, si vous voulez, et j'ai voulu faire accompagner mes personnages par la sagesse de ce Lanza del Vasto.
On sent donc que vous êtes en admiration. Et vous savez ce qu'on dit en psychosociaux, c'est que on ne peut pas admirer quelqu'un sans avoir des points communs avec lui. C'est-à-dire qu'on admire que des gens à qui on ressemble. Qu'en pensez-vous, Irène Cazenave?
Mais si on peut voir ça chez l'autre, c'est que quelque part ça existe chez nous.
C'est
peut-être
important ce qu'on vous dit, Bernard Méol.
Voilà,
vous avez quelque chose de Lanza del Vasto.
Peut-être à l'idée de germe, mais en tout cas, dans ce que vous partagez aussi dans ce livre, il y a cette idée-là de et je vais peut-être même poser la question plus clairement. Quel est le message que vous avez envie de faire passer?
Parce que le message que je voudrais faire passer, c'est que Gainsbourg l'a fait passer... autrement, dans une chanson avec les 3 S, si, sex and son. Mais pour moi, les 3 S, c'est pas ça. C'est spiritualité, sexualité et sens, si vous voulez. Et je pense qu'il y a une connexion très forte entre la sexualité et la spiritualité. Et c'est ça, si on arrive à concilier et à installer les fluides entre les deux, c'est ça qui crée du sens. Qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? Avoir du sens, si vous voulez. Et je pense que la spiritualité, elle est partout. D'abord, bon, la sexualité, pourquoi vous êtes là, vous, moi, parce qu'il y a eu une rencontre de deux sexes un jour, on l'oublie complètement.
On peut être des enfants de l'amour, quoi.
Oui, pas toujours, parce que
c'est pas
le cas qui est violé, qui a un enfant,
c'est
pas forcément un enfant de l'amour. Mais dans la plupart des cas, on est des enfants de l'amour, c'est très juste. Mais en même temps, je pense que la spiritualité, elle est partout, si vous voulez, elle est dans une fleur, elle est dans le sourire d'un enfant, un gratte-ciel qui va être très esthétique, très beau, il s'élève vers le ciel. Et l'architecte et les centaines d'ouvriers qui ont travaillé à en faire un objet d'art, une œuvre d'art, ben ce sont des gens qui élèvent aussi, comme une cathédrale, une idée de spiritualité vers le ciel. Donc, si vous voulez, la spiritualité, c'est elle qui nous permet de nous dépasser, et c'est elle qui nous offre tous les plus et tout le côté sublime que le pauvre terrien a du mal à accepter dans l'argile.
N'appréhenderait pas. On va passer une page musicale et on va justement fouiller toutes ces questions-là. Restez avec nous, le livre est passionnant. Évidemment, on ne vous le déflorera pas à 100% parce que le but, c'est que vous ayez envie de le lire. Espérons qu'on vous donnera envie d'aller découvrir un si brûlant secret. Restez avec nous.
<t'->
desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Et cette magnifique chanson du film Crea Cuervos, le cri des corbeaux, Paul Ketevas. Vous êtes toujours avec Christophe Medici et Irène Cazenave dans l'émission Pour vivre heureux, vivons coachés. Nous avons la chance d'avoir comme invité Bernard Méhol avec nous pour son second roman, Un cerf brûlant secret. Bernard, il y a un homme qui devient important assez vite dans la vie de France Maria, n'est-ce pas? C'est son mari, Joshua. Alors, que dire de Joshua? C'est un personnage, ce Joshua, n'est-ce pas?
Oui, Joshua, c'est un personnage paradoxal parce qu'il est marchand d'armes, donc il a un métier de mort. Et puis, c'est un garçon très intelligent et qui a compris lui aussi qu'il faut, par des exercices spirituels, essayer de trouver son équilibre, surtout pour compenser cette espèce de ce métier qui est un métier un peu fou, mais dans lequel il trouve... des justifications en disant que finalement il va arbitrer en essayant de vendre des armes aux chefs d'État censés contre les méchants, contre les tyrans, contre les dictateurs. Bon, ça, c'est ça.
C'est sa rationalisation.
Sa rationalisation,
Freud.
C'est ouais, ça. Ouais. Mais lui, en même temps, découvre aussi à travers Lanza del Vasto, parce que c'est lui qui initie Maria au principe développé par Lanza del Vasto. Lui, à travers Lanza del Vasto et ses séances de méditation et de yoga, trouve une source d'équilibre et finalement arrive à garder la raison.
Alors c'est un homme d'argent aussi, il aime beaucoup de faire d'argent. Alors il y a un passage que j'adore, chers amis auditeurs, voilà ce que dit Joshua, je vais vous faire rebondir dessus, Bernard Méhol. Il dit « Ne pas perdre d'argent est une philosophie, en gagner c'est une religion, j'ai cette ferveur. »
C'est vrai, c'est vrai.
C'est un homme qui veut…
Oui.
Money maker, on dirait au States, c'est un faiseur d'argent.
Vous avez tout à fait raison, mais écoutez, qu'est-ce que font les grands patrons, les grands capitaines d'industrie, les grands hommes d'affaires? Finalement, ils n'ont qu'une idée, c'est de faire grossir leur capital, leur patrimoine et leur business. Enfin, que ce soit Bernard Arnault.
Vous avez des faux airs de Bernard Arnault, d'ailleurs, physiquement.
Oui, mais mon compte en banque ne ressemble pas au sien. Mais si vous voulez, ce sont des gens qui ont par goût de, peut-être pas par goût de l'argent, mais par goût du pouvoir, l'idée que finalement grandir à travers une fortune immense, c'est aussi s'imposer sur la planète.
D'ailleurs, ça me fait penser à une des rares chansons que Bernard Tapie, Paix à son âme, avait chantée, dans Réussir sa vie. C'est bien la période, l'univers et l'imaginaire au sens de Gilbert Durand, hein, des années 80 du siècle dernier, des ambitions qu'il avait fait, cette émission, n'est-ce pas, où l'idée dans les années 80, c'est réussir sa vie, c'est forcément avoir amassé beaucoup d'argent, Irène Cazenave.
Mais c'est presque tabou aujourd'hui de parler d'argent, qui est un personnage qui puisse évoquer ce positionnement-là. Je trouve ça très intéressant, et ce qui est intéressant, c'est que il y a un côté aussi transverse dans votre livre du bas, de là d'où vient Maria d'ailleurs, du haut financièrement, du bas aussi des bas instincts ou de la sexualité, du haut avec la spiritualité, qui sont en permanence présents, et de trouver cet équilibre entre ce bas et ce haut-là.
Bernard Méhoul.
Oui, c'est un équilibre difficile à trouver pour chacun d'ailleurs, pas seulement pour Joshua ou France Maria et les autres dans le roman. Mais ça fait partie, vous savez, la vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui est très facile à créer, c'est la rencontre de deux sexes, c'est très facile à créer, mais c'est très difficile à vivre et c'est très difficile à quitter. Donc, à travers cette complexité, finalement, de l'aventure de la vie dans laquelle nous devons essayer de nous réaliser, on est propulsé malgré soi dans une expérience incroyable qui est de traverser des années plus ou moins longues selon le temps qui nous est consacré, mais aussi l'idée qu'il est nécessaire de chercher autre chose que finalement ce à quoi nous sommes confrontés journellement, c'est-à-dire son job, ses passions, etc. Et autre chose, comment on peut le trouver? C'est avec un autre, avec l'autre, si vous voulez. Et c'est à travers cette rencontre avec l'autre, un homme, une femme, qu'on va complètement s'épanouir et complètement développer et ce qui est nécessaire à l'harmonie la nôtre et puis celle du monde. Si
cette France Maria, quand même, elle aime beaucoup les hommes, n'est-ce pas?
Oui.
Et elle aime, parce que on déflore pas, je veux vraiment pas qu'on déflore, chers amis auditeurs, la trame et tout, parce qu'on veut vraiment, il y a beaucoup de rebondissements dans le roman, et je crois que le but de notre émission, c'est de montrer la profondeur à la fois de votre livre, Bernard Méhoul, le côté à la fois spirituel, philosophique, à la fois trajectoire d'une vie qui nous a passionné, mais si on déflore le roman, on va pas donner envie, et on veut donner envie aux auditeurs de le lire. Donc on y va, vous voyez, on est un peu le funambule de Genet, on marche sur le fil, je veux pas, vous voyez, elle rencontre beaucoup de personnages, elle a des pérégrinations incroyables, il y a un si brûlant secret, n'est-ce pas, vers la fin, mais si on en parle, évidemment, ce serait comme spoiler un film, donc ce serait n'importe quoi, c'est un peu le masque et la plume, là, qu'en pensez-vous, Irène? Voilà, par contre, on peut quand même, alors, il y a des passages quand même qui sont quand même, comme dirait mon ami Alex Lutz, à pas piquer des hannetons, quand il adore reprendre des expressions, il a fait des sketchs parfois sur à pas piquer des hannetons, Alex. Non, vous entendez cette expression, à pas piquer des hannetons, bref. Il y a l'idée, et ça, je voulais vous faire rebondir là-dessus, vous aimez beaucoup la philosophie, hein, vous aimez beaucoup la spiritualité, Bernard Méhoul. Vous parlez des portraits, à un moment donné, vous parlez qu'il y a quelque chose d'un portrait d'un samouraï. Il y a quelque chose de ça. Et que cette philosophie, ça lui parle. Vous pouvez développer ça?
Oui, alors, si vous voulez, c'est une croqueuse d'homme. Mais dire que c'est une croqueuse d'homme, c'est réducteur. C'est une femme fantasmée, en quelque sorte. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est en fait une femme qui a, certes, un comportement semblable à beaucoup d'hommes. D'ailleurs, quand un homme est séducteur, que c'est un donjon, on trouve que c'est un demi-dieu. Quand une femme aime les hommes, on dit que c'est une nymphomane, si vous voulez. Bon, ce qui est une injustice profonde.
C'est pas féministe du tout, ça. Hein
Non, mais c'est une injustice profonde.
Ouais,
si ouais. Moi, je crois que France Maria, elle aime les hommes, mais l'idée, c'est plus d'aimer les rencontres et d'aimer les découvertes, si vous voulez. Et en fait, notre rêve à tous, c'est d'avoir 1000 vies, comme disait Victor Hugo. Mais on a 1000 vies comment? En lisant des livres, mais aussi en rencontrant des gens. Alors, en lisant des livres, parce que dans les livres, finalement, on crée d'autres vies. Les écrivains créent d'autres vies. Et les lecteurs se mettent dans la peau aussi d'autres personnes.
Donc, vous savez ce que disait Borges à ce sujet-là? Il disait « Un livre, c'est une des rares promesses de bonheur tenues par la vie ».
Oui,
c'est
vrai.
Joli. C'est qu'on part vers le bonheur et on ne sait pas où on part, mais c'est une rencontre aussi,
la
Irène.
La rencontre aussi. Et il y a vraiment cette question d'explorer la rencontre avec l'autre. Est-ce que vous pourriez dire que c'est une exploratrice?
Tout à fait. C'est très juste comme terme. Parce que vous savez, une des rencontres qui l'a marqué, bon, c'est une femme qui a eu beaucoup d'amants, je ne dirai pas combien, parce que c'est un des secrets du livre.
Je croyais que vous alliez dire c'est indécent.
C'est pas indécent, parce qu'elle rappelle, elle parle avec Dieu, et elle rappelle à Dieu que, compte tenu du nombre divisé par le nombre d'années, ça fait par mois pas beaucoup.
Et puis vous vous rappelez ce que disait Victor Hugo, qui aime sa femme ou qui aime un homme, sans le savoir, aime Dieu. Donc voilà. D'une certaine, quand tu aimes quelqu'un vraiment, tu aimes Dieu. Donc, mais développer cette idée que vous pose comme question Irène Cazenave, l'idée que France Maria est une exploratrice.
Alors c'est une exploratrice parce qu'effectivement un des souvenirs qu'elle a les plus marquants, bon, en dehors de ce premier baiser qui est le premier chapitre avec un garçon de 15 ans, elle a aussi dans ses amants rencontré quelqu'un qui n'est pas un amant. C'est quelqu'un qui a été blessé parce que sa femme l'a quitté et qui est resté toute une nuit, tout nu à côté d'elle, sans jamais la toucher. Et c'était une chose qui l'a énormément frappée, si vous voulez, parce que le seul qui ne l'ait pas touchée, elle en garde un souvenir au soir de sa vie, en quelque sorte, qui est un souvenir très important, plus important même que tous ceux qui ont pu faire l'amour
avec
elle. Vous
savez à quoi ça me fait penser, ça, Bernard Méol? Et souvent, là, c'est drôle, parce que c'est ce personnage-là, une partie d'elle, et ce que vous venez de développer là, me fait penser à la trajectoire de Garance dans Les Enfants du Paradis. Le seul qui est fou amoureux d'elle, c'est Baptiste, qui est joué par Jean-Louis Barrault, et il ne la touche pas. Et la seule fois, il passe une nuit d'amour avec elle, avec un grand A, dans l'hôtel, il ne fait pas l'amour avec elle. Alors qu'elle va se marier avec le vicomte de Montreuil, dont elle n'est pas amoureuse, mais elle se marie avec le fric, avec l'argent et avec la noblesse. Et elle lui dit à un moment donné, quand il lui dit « Est-ce que vous m'aimez ?» Il dit « Dialogue de Prévert », je rappelle à tous nos amis auditeurs, « Dialogue de Prévert » fut longtemps considéré comme le plus grand film français de tous les temps. Hein. Et quand on aime le théâtre, on aime « Les Enfants du Paradis », forcément. Et on m'appelle Garance, c'est le nom d'une fleur, disait Arletty. Hein, c'est Arletty qui joue Garance. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de Garance dans France Maria.
Oui, probablement.
Il y a quelque chose de Garance. Hein, quelque chose de Garance. Et vous avez été marqué par ce film. Vous l'aimez, ce film, Les Enfants du
beaucoup,
Paradis?
Oui, bien sûr.
Oui. En plus, c'est très poétique. On va passer une page musicale. Restez avec nous, c'est passionnant. On va voir d'autres passages du livre. Et on va voir ce qui arrive à France Maria dans Un si brûlant secret.
En el alma solo tengo soledad, que si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo esperaba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, y le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Fuiste toda la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, en tus besos yo esperaba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagando. Sin tu amor no viviré.
Es la historia de un amor. On est à plein dans la culture et l'imaginaire espagnol. Vous êtes toujours avec Christophe Médici et Irène Cazenave dans Pour vivre heureux, vivons coaché. Nous recevons aujourd'hui le romancier Bernard Méhol pour son second roman vraiment réussi, Un si brûlant secret. Bernard, il y a une phrase qui m'a touché. Après, elle est un peu mystérieuse, donc j'aimerais que vous nous disiez ce que vous mettez dessous, parce que c'est presque une phrase psychanalytique, donc vraiment, Irène va en faire ses choux gras aussi. Vous dites à un moment donné, c'est très beau, hein, mais en même temps, on veut savoir ce que ça veut dire. C'est très lacanien, donc tout ce qui nous dépasse nous retient. Pourquoi vous dites ça et qu'est-ce que vous mettez dessous ? Tout ce qui nous dépasse nous retient. Bernard Méhol.
Si vous voulez, dans ce chapitre, je crois que le sens de cette phrase est expliqué, c'est-à-dire qu'elle comprend, qu'il y a des mystères qui nous dépassent, France Maria. Elle comprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, si vous voulez, et qui l'empêchent finalement de tomber dans la déraison, parce qu'elle les admet. Elle les respecte et elle se dit que dans le fond, il y a à la fois peut-être un créateur, peut-être un Dieu au-dessus de nous, mais que tout ce qui est en nous et qu'on ne comprend pas nous oblige à finalement beaucoup de modestie et beaucoup de capacité de savoir que nous sommes à notre place, et petits bipèdes, sans se prendre pour des génies, si vous voulez, même ceux qu'ils sont et ceux qui ont réussi et qui parfois ont la grosse tête ou le melon, comme on dit.
Le manque d'humilité, oui.
Oublie tout ça, si vous voulez. Et je pense que ce qui nous dépasse, ça nous ramène à un besoin de modestie, parce qu'on, dans le fond, parce qu'on se dit, c'est tellement grandiose, ces choses qui nous dépassent, que il faut qu'on soit capable de rester à notre place et de pas vouloir croire qu'on est des demi-dieux.
Quelle est votre oreille de clinicienne sur cette phrase d'auteur, Irène Cazenave?
Pour moi, il y a vraiment dans votre roman, il y a plein de petites phrases comme ça, comme si c'était un roman initiatique presque, de compréhension de soi à travers l'autre, et de trouver, il y a aussi la question de trouver sa place. Je parlais tout à l'heure du haut et du bas, et de trouver son juste milieu.
Oui, c'est vrai, oui. Mais vous savez, je crois que cette femme, l'héroïne du roman, est en train de réaliser que le juste milieu existe entre ce que je disais tout à l'heure, la spiritualité et la sexualité, parce qu'elle a goûté à tous les plaisirs de la vie, mais en même temps, elle ne s'est pas attachée à n'être qu'une jouisseuse et qu'une femme qui a envie d'être hédoniste, comme peuvent l'être beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup d'hommes, si vous voulez, mais qui au contraire cherche ailleurs, dans des choses qui sont très belles. Elle est fascinée par la beauté, d'ailleurs. Elle va chercher chez les Nouba de Ko, qui sont une tribu du Soudan, d'une beauté extraordinaire, parce que les femmes ont les seins sous les épaules, ce qu'aucune autre peuplade n'a sur Terre, si vous voulez. Et les hommes sont très grands, tous très beaux, etc. Et donc, elle est fascinée par la beauté. La beauté la fascine. Et d'ailleurs, la beauté est fascinante. Elle est aussi corruptrice, la beauté, parce que en même temps qu'elle est un cadeau du ciel, mais en même temps un poison terrible, parce que toutes les femmes beaucoup de femmes qui ont été très belles, comme Ava Gardner ou Marilyn Monroe, ont été détruites par la beauté. C'est-à-dire que les hommes ont sauté dessus, et le président des États-Unis, Kennedy, etc., ont profité, ont voulu accaparer sa beauté.
Mais elles auraient pu être aussi belles, et si elles n'avaient pas été autant pathologiques, elles n'auraient pas subi ça. C'est qu'une femme très très belle, Irène est très belle aussi, peut très bien ne pas subir ça. Je pense que chez ces femmes-là, notamment chez Marilyn, c'est surtout la pathologie, Bernard, qui faisait ça. D'être un objet comme ça, le côté borderline, Irène Cazenave, qu'en pensez-vous ?
La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir qu'on crée chez l'autre ?
La femme crée forcément, est un objet de désir, même chez le plus bourrin de tous les bourrins, c'est ça le problème. Alors, surtout quand on est Marilyn, vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense qu'il y a des femmes tout aussi belles que Marilyn qui n'ont pas eu ce destin tragique. Irène.
Mais j'ai envie de dire heureusement.
Heureusement.
Mais je pense que c'est la pathologie qui est derrière Bernard Méhol. Bernard Méhol.
Mais quand le président des États-Unis s'intéresse à vous, si vous voulez, et vous invite à partager son lit, vous changez là aussi de dimension, vous changez de peau, vous changez d'état d'esprit. Votre cerveau intègre des choses pour lesquelles il n'est pas préparé, si vous voulez. toute personne appelée à devenir célèbre, vedette ou au contraire compagne d'un homme qui est le plus puissant du monde ne reste pas la même. Donc je crains que ça, même Johnny Hallyday, il n'est pas resté le même entre le gamin de 18 ans et puis celui qui a eu un succès
c'est
après.
C'est cette fameuse phrase de Madame de Staël qui dit « la gloire est le deuil éclatant du bonheur ». C'est-à-dire que malheureusement, Madame de Staël dit que parfois beaucoup de gens qui atteignent la gloire, c'est le deuil éclatant du bonheur, ça rend forcément malheureux. Pour en arriver là, de Dalida, elle explique bien ça, pour en arriver là. Et je ne crois pas, moi, ça. Je pense que ça dépend de la maturité du travail sur soi quand la gloire arrive. Je pense qu'on peut très bien et avoir la gloire et garder la simplicité. On peut devenir un grand homme, une grande dame, tout en restant simple et en distance, si on ne se prend pas pour. C'est-à-dire si Johnny ne se prenait pas toujours pour Hallyday, si Marilyn était restée par moment Norma Jean, qui va voir son psychanalyste et qui, voilà, le peut-être moment où elle était le plus heureuse, c'est quand elle était la femme d'Arthur Miller, je veux dire, où là, elle est plus elle-même. Mais à un moment donné, si ces gens se prennent pour ce que l'image de la star, alors là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, la schizophrénie, Irène Cazenave, non, c'est fini. France Maria est très belle. Elle est très belle, votre héroïne. Elle est très belle.
Très belle, ouais.
Dans votre imaginaire, quand vous l'avez écrit, vous pensiez à qui ? Quelle femme ?
À une femme très belle, mais pas forcément à une femme connue ou qui, dont je pourrais laisser
brune,
le portrait.
Une brune,
plutôt une brune.
Plutôt
elle est espagnole.
Une brune, elle est espagnole. Donc une belle brune.
Belle brune.
L'héroïne d'Almodovar, comment s'appelle-t-elle, la femme ?
Oui, absolument, oui.
Comment elle s'appelle ? La femme de. Ah, la grande, l'égérie d'Almodovar. Je suis fatigué aujourd'hui. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît, la grande actrice, on la retrouvera. Pénélope Cruz. Pénélope Cruz, oui. Voilà, c'est celle qui me revenait dans la tête. À un moment donné, revenons à la trajectoire de France Maria. Elle revoit son ex-mari, qui a à peu près à 67 ans, elle le revoit. Et vous avez une formule magnifique, là, il y a de la poésie dans votre livre. Les cheveux de son ex-mari, ses cheveux avaient désormais la couleur des nuages. C'est très beau, Bernard Méhoul. Ses cheveux avaient désormais la couleur des nuages. J'ai adoré cette image. Ah ben, il y a des éclairs de poésie comme ça.
Oui, bah, écoutez,
vous aimez Aragon.
Oui,
avoir
oui, bien sûr.
Que des cheveux aient désormais la couleur des nuages, c'est beau.
Merci.
Bah, n'est-ce pas, Irène ?
Mais il y a encore là cette élévation vers le ciel. Ça donne aussi une espèce de densité au fait de prendre de l'âge.
Oui. Bernard Méhoul.
Oui, je pense qu'en fait, nous avons, nous, êtres humains, une habitude qui est, quand on cherche à élever ses pensées, c'est de regarder vers le ciel, si vous voulez. Donc, c'est vrai que cette idée de cheveux couleur de nuages ressemblait à cette aspiration à s'élever. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier de regarder ses pieds et sur terre, parce que c'est de là où on vient, si vous voulez. Et ce mariage entre les deux est très important. Et je crois que la terre est aussi importante que le ciel pour être un élément qui va nous inspirer. Et peut-être qu'on devrait plus souvent regarder la terre, si vous voulez, parce qu'on vient de la terre.
On vient de la terre. Et ce que vous me dites me fait penser que l'être humain, l'homme, l'espèce humaine, homme ou femme, est entre ciel et terre. Et ça fait penser à la fin de ce chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Entre ciel et terre, quand la jeune femme, qui est devenue une grande femme et une grande elle, qui était l'ancienne vietnamienne, dit « C'est notre destin d'être à mi-chemin entre ciel et terre. Quand nous résistons à notre destin, nous souffrons. Quand nous l'acceptons, nous sommes heureux. Nous avons tout le temps du monde. Nous avons l'éternité pour refaire les mêmes erreurs. Mais il suffit de réparer une seule fois son erreur pour entendre enfin le chant de la raison. Écoute-le, il est dans ton cœur. C'est le chant qui résonne depuis l'instant de ta naissance. Et si les moines disaient vrai, et que rien n'arrive sans cause, alors le but de la souffrance est de nous élever et de nous rapprocher de Dieu, à être forts quand nous sommes faibles, et à laisser s'enfuir ce que nous ne pouvons plus retenir. Les seules victoires qui durent se gagnent dans les cœurs et non dans tel ou tel pays. C'est magnifique ça, non Bernard
Méhoul ?
Bravo. C'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est la fin d'Entre ciel et terre, quand elle se balade dans ce dimanche chant. Et ce que vous nous dites là, les s'élever, et que vous nous dites aussi, je ne savais pas que j'allais dire ça, hein, mais ce que vous nous dites aussi qu'il faut rester enraciné, c'est cette idée, C'est vous qui m'avez fait dire ça, Bernard Méhul, avec cette idée qu'un être humain est entre ciel et terre.
Oui, moi vous savez, bon, je ne sais pas si je crois en Dieu, c'est les jours pairs, oui, les jours impairs, non. Mais ça ne m'empêche pas de prier et de dire le matin à Dieu, merci pour ce que vous m'avez donné. Et le soir, Dieu, s'il vous plaît, filez un cancer à Poutine.
C'est une prière.
Qu'une prière. Autre. Qu'une prière, mais elle n'est pas encore exaucée.
On écoute un petit peu une chanson qui vous touche beaucoup et qui fait penser à votre livre. C'est notre ami Ray Charles. Écoutez cela, chers amis auditeurs. She knows how to shake that thing all right now. Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. All right. All right. Oh, play it, boy. Charles qui nous parle, et vous êtes toujours dans Pour vivre heureux, vivons coachés, et avec Bernard Méhul qui nous offre un formidable roman, Un si brûlant secret. C'est vrai, Bernard, qu'au détour d'un chapitre, on sent cet amour du football. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour du football, Bernard Méhul?
Moi, j'aime beaucoup, comme tous les Français d'ailleurs, et comme le monde entier, le football. C'est pas très original. Par contre, je décris une vision du football qui, elle, est très originale et complètement iconoclaste. C'est-à-dire que pour France Maria qui, après avoir vu des corridas en Espagne, assiste à un premier match de foot avec son mari en France. Elle dit que c'est un jeu muy, muy sensual, très, très sensuel. Pourquoi ? Parce que ce que personne ne dit et n'ose dire ou ne voit, c'est que c'est d'abord c'est un jeu de pénétration. Il faut faire pénétrer le ballon dans la cage, dans le vestibulo, si vous voulez. Bon. Ensuite, il y a un phénomène un peu orgasmique dans le football. C'est-à-dire quand il y a un but de marquer, sur les tribunes, tout le monde, dans un plaisir fou, communie, si vous voulez. Les joueurs eux-mêmes, d'ailleurs, vont se mettre les uns sur les autres pour constituer une espèce de grosse méduse qui était une espèce de tas d'amour en disant « Fantastique, on a réussi à marquer, on a joui, on a fait jouer le public. » Donc, si vous voulez, pour moi, c'est un jeu qui est un jeu sexuel puisqu'il y a cette nécessité pour des joueurs d'aller pénétrer la cage de la partie adverse, c'est-à-dire le sexe de la partie adverse. Et c'est ce que j'ai décrit avec un
c'est
peu d'humour.
C'est de la psychanalyse du football que nous fait Bernard Méot, Irène Cazenave. C'est
complètement. Et c'est très intéressant d'avoir cette vision-là qui donne aussi tout son sens à... On parlait tout à l'heure de pouvoir, de séduction, de la beauté, mais il y a aussi dans le football cette beauté-là et cette liesse que ça crée. Le pouvoir, c'est aussi... Le football, c'est aussi un lieu de... C'est aussi un lieu de pouvoir. Il y a beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Il y a du sexe et de l'argent. Donc on comprend que ça intéresse beaucoup les gens.
Bien sûr, un lieu de pouvoir et de plaisir.
Et, et l'opium est devenu l'opium du peuple aussi.
Bien sûr.
Mais j'ai fait 30 ans de football et j'ai joué à un certain niveau. Donc je vous confirme...
Bravo.
Ouais, je vous confirme que quand l'équipe marque... Il y a quelque chose d'organisé, ou même au sein de l'équipe. L'équipe marque, moi je jouais en DH à Saint-Levé au 95 et je suis allé en division d'honneur, hein, en junior, donc c'était vraiment le plus haut niveau des jeunes. Mais il y avait cette joie, cette innocence encore des jeunes. Quand j'étais en première année senior, je rentrais en hippocagne et j'ai plus du tout trouvé ça et j'ai arrêté. Parce que moi en junior, même quand tu fais des tournois internationaux, t'es encore jeune. Il y a un pays qui est prégnant dans le livre et j'aimerais que vous en parliez à nos auditeurs, c'est la Suisse. N'est-ce pas Bernard ? Expliquez-nous.
Oui. Alors la Suisse est un pays étrange parce que c'est un peu un modèle sous beaucoup d'aspects, si vous voulez. C'est un pays qui sait organiser l'ordre et le désordre. Et vous avez, moi, ce qui m'a frappé, parce que je suis invité au Salon du Livre de Genève en Suisse, là.
Ah, parfait.
Où je vais présenter mon livre. Et ce qui m'a frappé, j'ai été avant accueilli par des Suisses parce que j'ai rencontré une quarantaine de journalistes suisses avant le salon qui veulent que je leur parle de mon roman. Je suis allé en Suisse et ce que j'ai vu en allant à pied de la gare Cornavin vers l'hôtel où je résidais, c'était de voir cette prostitution en plein air et de voir que finalement, et d'apprendre, quand j'en parlais avec un journaliste suisse, d'apprendre que finalement le gouvernement suisse organise...
Ça c'est dans Genève.
C'est dans Genève, organise... La sexualité, c'est-à-dire que non seulement les prostituées sont autorisées, mais sont subventionnées pour services sexuels. Il y a des journaux qui proposent tout à fait normalement. Bon, je me suis dit que finalement, c'est un pays assez extraordinaire parce que la vertu règne en maître en Suisse, mais le vice est son obéissant domestique, si vous voulez. Et dans le fond, ce pays qui a su organiser Panem et Tirkenses, c'est-à-dire le pain et les jeux, l'argent et puis le fait de ne pas avoir de frustration, peut-être que ça rend un pays apaisé et moins violent qu'ailleurs.
C'est formidable ça, c'est formidable. D'ailleurs, pour filer, puisque vous parlez encore de sexualité, il y a à un moment donné, vers les derniers chapitres, vous développez la différence pour vous entre la relation qu'a le genre masculin à la sexualité par rapport au genre féminin. Vous pouvez en dire quelques mots, Bernard Méol, hein, il y a tout un passage là-dessus.
Oui, quel passage ?
Ah, je ne sais plus.
Moi non plus.
Mais la différence entre ce que recherchent les hommes, je crois que c'est France Maria, recherchent les hommes dans leur vie sexuelle et la différence entre ce que recherchent les femmes.
Oui.
Et je pense que même c'est dans la bouche, vous mettez ça dans la bouche de France Maria.
Absolument.
Bernard Méol.
Alors, les hommes cherchent à satisfaire leur sens, si vous voulez, ce qui finalement correspond à leur programmation génétique. Parce que le diable a versé une louche de ginseng de trop dans le bouillon avec lequel Dieu a fabriqué l'être humain. Si vous voulez, dans la casserole homme, il a versé trop de gingembre et de ginseng pour faire en sorte qu'il y ait un certain désordre sur Terre. Dieu avait fait ça pour qu'il y ait une reproduction assez modérée, si vous voulez, mais le diable a poussé les choses pour finalement créer sur Terre les désordres et la violence. Donc par contre, la femme, elle, ne cherche pas à satisfaire ses sens, elle cherche du sens, si vous voulez. Et dans une rencontre amoureuse, elle va peut-être essayer de savoir si cette rencontre va donner du sens à sa vie. C'est en ça que l'homme qui, lui, est plus porté à la satisfaction de ses sens est, à mon avis, très différent de la femme.
Je pense Irène Cazenave, en tant que thérapeute.
En tant que thérapeute, je dirais plus qu'on est conditionné énormément à ça, où les femmes apprennent, où les petites filles apprennent d'emblée à ne pas tellement exprimer leur désir, où l'opprobre est jeté sur des femmes qui sont un peu plus libres que les autres et qui laissent explorer, exprimer ces désirs-là. On est évidemment conditionné à ça, alors que les hommes sont plus, je dirais, conditionnés à explorer. Ça leur est oui. plus autorisé.
Et il y a une dimension jungienne aussi qui dit que l'homme cherche de la femme dans toutes les femmes, alors que la femme cherche tous les hommes en un homme. Donc oui. C'est-à-dire qu'elle peut avoir fixé que sur un objet, parce qu'elle cherche tous les hommes en un homme, à la fois que son homme soit sportif, intellectuel, romancier, poète.
Mais c'est aussi un conditionnement, mais qui est un conditionnement lié au fait qu'on a besoin de savoir qui est le père. Hein. S'il n'y en a qu'un, c'est plus simple.
Bernard Méol. Oui.
Eh bien, mater incerta, pater es incertus.
On ne sait jamais si c'est vraiment le père.
Mais moi, je pense quand même, vous avez raison, mais je pense quand même qu'il y a une grosse différence, c'est que la pulsion sexuelle est beaucoup plus forte chez l'homme. Et le constat, il est simple. Combien de femmes violent des hommes et combien d'hommes violent des femmes?
Oui. Mais ça, c'est savoir... Enfin, le viol, ce n'est pas tellement de la sexualité. C'est comme mettre un coup de râteau, ce n'est pas du jardinage. Mais il y a quelque chose où les femmes apprennent à gérer leurs pulsions. Les hommes apprennent moins à gérer leurs pulsions.
C'est peut-être ça. L'homme est plus pulsionnel. L'idée, Bernard Méol, il y a un passage aussi. On finira l'émission sur ce très beau titre d'un de vos chapitres. Vous évoquez à un moment donné la douceur de l'âme sœur. C'est beau ça, la douceur de l'âme sœur. Je pense qu'on croise des âmes sœurs dans sa vie, n'est-ce pas? Pas forcément qu'une, n'est-ce pas? On ne croisait plus, vous parliez joliment au début d'émission, des rencontres et des relations qu'on va tisser. Parce que toute rencontre ne débouche pas sur une relation. Il y a des rencontres qui ne sont que des rencontres éphémères. Et une relation, chers amis auditeurs, c'est une histoire qu'on se raconte à deux. Donc on n'est pas deux, on est trois. Et ça se noue, ça se tisse au fil du temps. Une relation, c'est une histoire. Mais c'est joli, ça, la douceur de l'âme sœur, n'est-ce pas? France Maria a 57 ans à ce moment-là. C'est pour son anniversaire. Alors, ah oui. Alors là, vous faites un sort aux anniversaires de France Maria. On déflore ou on déflore pas?
On déflore ou on déflore pas?
On déflore un peu?
On peut.
Vous verrez, chers amis auditeurs, qu'il y a quelque chose avec les anniversaires de France Maria. On en dit un peu plus?
On peut, oui.
Bon, en tout cas, il se passe des choses à chaque certains anniversaires de France Maria. Bernard Méol.
Oui, alors c'est une femme qui, après la mort de son mari, alors qu'elle a eu une vie sexuelle assez intense, décide qu'elle n'aura plus qu'une relation sexuelle une fois par an le jour de son anniversaire. Et donc, elle fait fabriquer chez Victoria's Secret des pyjamas en soie verte avec ses initiales. Et puis, à chaque anniversaire, à chaque amant qu'elle rencontre ce jour-là, elle offre un pyjama. Et en fait, c'est pour elle une occasion, après avoir connu une vie sexuelle un peu débridée, de se dire finalement, je vais traverser un désert pendant un an, un désert sexuel, et je vais m'éclater dans une oasis magnifique avec un partenaire d'une nuit. Et donc, à travers ça, elle choisit des rencontres assez intenses, qui sont d'autant plus intenses qu'elles sont très rares. Et il se produit, à la faveur d'une rencontre, un événement assez considérable qui... donne le ton du dernier chapitre du roman où là il se passe quelque chose d'époustouflant que nous ne raconterons pas.
Mais cela, c'est à voir dans la troisième ou quatrième saison Netflix. En tout cas, il faut acheter un si brûlant secret pour connaître toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces histoires, le jour de l'anniversaire? C'est toujours un jour important pour un individu quand même. Le jour de son anniversaire, c'est le jour de sa naissance. Il y a des gens qui détestent fêter le jour de leur anniversaire. Ron Cazenave.
Il y a vraiment cette question de trouver un cadre, je dirais un cadre pour explorer la liberté. C'est comme si ça avait été sa quête depuis le départ de trouver ce cadre-là. Donc elle décide, elle, de quand est-ce qu'elle va pouvoir explorer au maximum cette liberté. Et il y a vraiment cet équilibre, là encore, à trouver entre quel cadre et pour être complètement libre dans ce cadre.
Bernard Méroul.
C'est très juste ce cadre pour explorer sa liberté. Elle le dit dès le début du livre. Elle dit le citoyen propose, la citoyenne dispose, si vous voulez. Et finalement, c'est sa capacité de choisir tout le temps, car à partir du moment où elle s'est enfuie du domicile paternel, elle n'a qu'une idée, c'est de choisir sa vie et de faire en sorte que même si ses choix sont difficiles, compliqués, douloureux, elle va finalement gagner sa liberté et sa complète liberté.
Eh bien, c'était extraordinaire, chers amis auditeurs. Merci. Toute notre gratitude infiniment, Bernard Méroul. D'être venu sur Dynamique Radio dans Pour Vivre Heureux, Yvon Cotier. Je répète le titre de votre livre. Vraiment, lisez ce livre, ce magnifique roman, Un si brûlant secret, aux éditions La Route de la Soie. C'est pas le dernier, n'est-ce pas, Bernard? Il y en aura de suivants, mais celui-ci, il vaut son pesant d'or. Chers amis auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas la phrase de Voltaire, plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler
Côtier, une émission produite et réalisée par Christophe Médicis.